Marie-Virginie Klein, on a entendu dans le journal de 18h par l'intermédiaire de notre journaliste politique Alexandre Chauveau qu'Emmanuel Macron pourrait prendre la parole dans les prochains jours. Vous, conseillère en communication, qu'est-ce que, si jamais Emmanuel Macron vous disait bah, « Tiens, prends la plume et écris-moi un texte », vous lui écririez quoi?
J'aimerais pas tellement là, être dans la position du conseiller en com qui doit écrire un texte, parce qu'en réalité, la seule chose qu'il pourra dire, c'est justifier pourquoi il a dû faire ce choix du 49-3.
Il l'a plus ou moins fait.
Il a commencé à le faire.
Il y a une phrase qui est sortie du Conseil des ministres. Hein.
Tout à fait. Il a commencé à le faire, mais bon, il sera obligé de le développer. Et
je rappelle quand même la phrase, puisque vous ne le faites pas,
oui,
c'est la situation économique et financière du pays ne permet pas que ce texte ne passe pas à l'Assemblée. Ouais. Voilà.
Alors, il y a deux choses. Moi, pour répondre à votre question, il y a deux choses que je dirais. C'est d'ailleurs ce que les conseillers à l'Élysée commencent à faire fuiter, c'est Emmanuel Macron a fait passer l'intérêt du pays avant son intérêt politique. Et pour le coup, c'est vrai, je veux dire, enfin c'est vrai. En tout cas,
c'est le verre à moitié plein.
Non, mais c'est le verre à moitié plein parce que cette réforme des retraites, malgré tout, quand on regarde les finances du pays, quand on regarde les réactions aussi des marchés financiers en ce moment, on ne peut pas se dire autre chose que la France a besoin d'argent, la France a un potentiel de croissance encore limité aujourd'hui et que donc on ne peut pas se permettre d'emprunter à n'importe quel prix. Donc je pense qu'il faudra argumenter là-dessus, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, on connaît maintenant les vraies raisons de la réforme des retraites. Et c'est ce sur quoi, dès le départ, il aurait vraiment dû communiquer. C'est on n'a pas le choix économiquement.
Vous plaisantez. La moitié du gouvernement, en commençant par Olivier Dussopt, a dit on n'a pas le choix.
Oui, il l'a dit dans un second temps. Au départ, ils étaient partis sur une argumentation de justice, sur une argumentation de justice sociale très fortement. Et quand ils se sont rendus compte que cet argument de justice leur revenait en boomerang, notamment parce que l'intersyndicale et les opposants se l'étaient réappropriés, ils ont commencé à parler maintenant de réformes nécessaires pour le pays et d'argent. Et pour moi, ils l'ont fait trop tard, ils l'ont fait dans un second temps. Et donc, ça, c'est à partir de là, je pense, que la communication du gouvernement a essayé de se corriger. Mais c'est beaucoup plus dur de corriger un tir de communication que de tirer droit dès le début. En fait, cette réforme, il y a plein d'arguments économiques pour dire qu'elle est nécessaire, économiquement, et donc qu'elle se fera quoi qu'il arrive. Et même donc, c'est là-dessus qu'il aurait dû le faire. Donc maintenant,
mais si c'est plus facile de communiquer sur la justice sociale que sur, attendez, la France est parmi plusieurs autres puissances sous le giron ou dans le giron des agences de notation. Les agences de notation, c'est quoi? C'est comme à l'école primaire, on vous met de 0 à 20 sur 20. Et si vous avez une très mauvaise note, l'argent que vous empruntez pour l'économie du pays coûte de plus en plus cher. Bon, là, c'est difficile à expliquer à des gens qui, et on les entend, les infirmiers, les métiers pénibles qui disent « je vais bosser jusqu'à 64 et même plus parce que j'ai commencé pas forcément tout de suite ». C'est très difficile d'entendre des arguments comme ça qui ont l'air un peu abstraits ou abscons ou très économiques ou très financiers. C'est facile de mettre sur la tête du président de la République une étiquette de banquier parce qu'il a, par le passé, eu un poste à la Banque Rothschild. Vous avouerez quand même que la communication n'est pas simple.
Non, elle n'est pas simple, mais elle n'est pas simple. Elle est d'autant moins simple maintenant qu'elle a mal commencé. Rappelez-vous, il y a deux semaines, Olivier Dussopt disait dans les colonnes du JDD que cette réforme aurait pu être portée par la gauche. Mmh. Donc là, c'est-à-dire que là, les explications économiques qu'Emmanuel Macron risque de nous donner quand il prendra la parole, à mon avis, elles seront moins audibles par le peuple de gauche que par le peuple de droite.
Vous avez un Dominique Strauss-Kahn qui aurait pu expliquer en bon financier. Il y a la gauche de la gauche et puis... il y a la droite de la gauche.
Oui, mais quand même, ces arguments seraient valables. Ils sont aujourd'hui inaudibles pour plusieurs types de raisons. Quand vous prenez les enquêtes, la question des finances publiques est passée, je crois que c'est l'IFOP, de la 4e à la 12e position en termes de priorité des Français. Mmh. Vous avez dépensé 10 milliards par mois.
Ce qui fait plaisir à Pierre Moscovici qui n'arrête pas de dire faut vraiment qu'on se calme sur la dépense publique.
Mais c'est inaudible aujourd'hui. Vous avez lâché 10 milliards par mois lors du confinement.
Lors du quoi qu'il en coûte.
Exactement.
Enfin bon, c'est à situation exceptionnelle, action exceptionnelle.
Et vous allez discuter de... je crois que 10 milliards, c'est ce que nous coûtent les emprunts à taux variable choisi par le gouvernement à l'époque. Mmh. Et donc, évidemment, vous ouvrez d'autres brèches. Par ailleurs, on met de l'argent dans le tonneau des Danaïdes à cause du marché européen de l'électricité. Il faudrait également le justifier. Donc, vous comprenez que si vous ouvrez une discussion sur quel est l'équilibre de nos finances et où est-ce qu'on peut faire des économies, ça devient beaucoup plus complexe à gérer. Et qui plus est, eh bien, vous avez aujourd'hui une situation sociale qui fait que l'idée même de rigueur apparaît aujourd'hui totalement inaudible et inenvisageable. Emmanuel Macron va probablement prendre la parole en début de semaine. Ce qui se dirait, c'est qu'il parierait sur des grandes réformes consensuelles. Alors justement, il y aura les institutions, ça va encore faire plaisir aux constitutionnalistes, mais au-delà du fameux lobby des constitutionnalistes qui contrôlent la France, eh bien, ça ne va pas faire plaisir à grand monde, ou en tout cas, ça ne va pas être très audible dans l'opinion. Les autres réformes relativement consensuelles qu'il pourrait mettre en avant, c'est des réformes des services publics, santé, éducation, police...
Ce sont des réformes structurelles.
Et c'est des réformes très coûteuses,
bah, oui.
La réalité.
Bah, c'est structurelles, donc très coûteuses.
On
commence à quelle heure? Avec un Parlement échaudé, des manifestations encore aujourd'hui, place d'Italie à Paris, parce qu'on a interdit la Concorde, du coup on s'est déplacé dans le sud de la capitale. Enfin,
ça m'apparaît être impraticable d'un point de vue parlementaire, extrêmement coûteux, et on revient sur les enjeux financiers, et qui plus est inaudible dans le contexte. Et donc, en effet, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, j'aimerais pas être celui qui tient la plume d'Emmanuel Macron pour mardi, mercredi, lors de son discours, si discours il y a.
Marie-Virginie Klein.
Ouais, la question que je me poserais toujours à la place de ce conseiller en communication, c'est quel changement...
On aimerait bien avoir son nom, en fait. Je pense qu'ils sont plusieurs, ça doit être une team. Il doit y avoir un groupe de travail, un atelier. C'est pas l'atelier des rois maudits autour de Joseph Kessel, c'est... autour de Maurice Druon, mais voilà.
Non, c'est quel changement on va marquer, parce que après un acte fort et lourd comme celui du 49-3, évidemment qu'il va quand même devoir montrer qu'il a écouté, entendu les reproches qui lui avaient été faits, et ça va être totalement impossible pour lui de continuer exactement comme avant. Donc une des possibilités, ça serait un remaniement, par exemple, pour enlever tous ceux qui ont porter cette réforme, parce que c'est plus facile, ça serait la plus facile des solutions. Mais c'est là où moi je m'interroge sur le cas Elisabeth Borne, que je trouve super intéressant, parce que Elisabeth Borne, bon, c'est vraiment elle qui a porté la réforme des retraites.
C'est une femme dirigeante.
Oui, et plus que ça, c'est la deuxième femme première ministre qu'on a eue. Et j'ai fait des petits calculs, parce qu'encore une fois, fallait moi aussi que j'ai quelques arguments... rationnel à donner. Elisabeth Borne, donc là, elle est au gouvernement depuis 10 mois et 2 jours. Et Edith Cresson, qui était l'autre femme première ministre, eh ben, elle est restée au pouvoir 10 mois et 18 jours. Donc
il lui reste 16 jours.
Justement, je pense que c'est un argument pour lequel il ne peut pas changer de première ministre, parce que...
Est-ce que vous pensez que c'est dans la balance? Pardonnez-moi de vous poser
oui,
la question.
Et je pense même que Elisabeth Borne elle-même, mais peut-être... son poste dans la balance, parce qu'elle a tellement porté ce vote à l'Assemblée, elle a tellement défendu le fait de devoir passer par un vote.
D'après les informations qu'on a, c'est dans les couloirs dans cette grande réunion qui a eu lieu avec effectivement Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, mais aussi Richard Ferrand, François Bayrou et plein d'autres. Apparemment, c'est Elisabeth Borne qui est montée au credo en disant « Moi, on a tout fait pour ce texte, on a fait toutes les concessions possibles, maintenant on fait le 49-3 et tant pis si je saute. » Voilà.
Oui, mais elle a défendu publiquement ce 49-3 quand même pendant 3-4 jours avant. Pas le 49-3, pardon, le vote. Mmh. Elle a quand même vraiment essayé de convaincre le président jusqu'au dernier moment que le vote serait quand même la meilleure position. Et
comme
donc,
quoi on
moi,
peut changer d'avis
pense...
très rapidement.
C'est compliqué, parce qu'il suffit de regarder, à mon avis, le nombre de députés qui étaient pour et qui étaient contre, et puis ça s'est joué à quelques voix près, et donc le risque était trop dur. Mais je pense
qu'il y a 20 voix qui manquent.
Il faudrait... Moi, j'avais 25 voix, comme compter 25. Ouais. Vous comptez 32, moi j'avais compté 25.
Motion,
mais je pense que vous comptez mieux que moi sur ce type de sujet-là. Et nous, ce qu'on nous dit du côté des LR, en tout cas, après prise d'info, c'est qu'il n'y aura jamais 25 députés qui vont voter la motion de censure. Donc, le vote de la motion de censure semble très peu probable.
Bon, bah alors du coup, après, c'est ce qu'on disait, c'est saisine du Conseil constitutionnel, RIP, et en attendant, les blocages et un narratif, et on essaie quand même de passer un week-end. Vous rendez compte, les gens sont à nouveau dans la rue, on va le vivre dans le journal de 19h avec nos envoyés spéciaux qui sont place d'Italie, apparemment il y a des débordements sur la Butte-aux-Cailles. Il y a une incompréhension au-delà des textes constitutionnels, des feintes, mais en tout cas des artifices qui permettent d'avancer ou pas d'une certaine manière dans un texte qui est cher au gouvernement. À part ça, il y a, voilà, il y a cette contestation et il manque, Raquel Garrido disait tout à l'heure, il n'y a pas d'outil pour renverser le président. Il n'y a pas un impeachment comme il y a par exemple aux États-Unis.
Alors si, vous pouvez toujours voter la destitution du chef de l'État, mais la destitution du chef de l'État implique d'avoir deux tiers dans les deux chambres et ensuite deux tiers du Congrès qui s'appelle à ce moment-là haute cour. C'est très très improbable. C'est plus facile de modifier la Constitution.
C'est vraiment pour des faits majeurs.
C'est ça. C'est plus facile de modifier la Constitution pour supprimer le poste de président que de destituer un président. Donc, si vous voulez, c'est en effet extrêmement peu probable. En réalité, le vrai sujet va être en effet celui du Premier ministre. Et changer Elisabeth Borne, certes, mais pourquoi ? D'abord parce que ça impliquerait de marquer la fin d'une séquence. Or, vous l'avez dit, RIP, Conseil constitutionnel, saisine, manifestations qui vont continuer. La séquence retraite, elle n'est pas terminée. Le gouvernement aimerait bien que lundi, elle soit terminée. Force est de constater que probablement, elle ne le sera pas. L'autre élément, c'est d'habitude, sous la Ve République, on cherche un Premier ministre qui est bon pour le casting, qui permet d'être complémentaire du chef de l'État, etc. Là, on a besoin d'un Premier ministre de régime parlementaire, à l'allemande ou à l'italienne. Il faut former des coalitions. Et ça, actuellement, je ne vois pas qui pourrait vraiment avoir cette culture.
La coalition à la française...
Mais au sein même de la majorité, il n'y a quasiment plus d'intergroupe aujourd'hui entre Horizon, le Modem et Renaissance. Donc ne serait-ce que tenir cette majorité relative est déjà devenu impossible.
Plus donc le fameux LR, ensemble, puisque ça s'appelle comme ça,
ensemble porte très très mal son nom aujourd'hui. Et donc Elisabeth Borne, malgré tout, est probablement aujourd'hui l'une des personnalités qui garde encore cette capacité. Donc pourquoi la changer si ce n'est pour le symbole ?
Merci Benjamin Morel, merci à vous. Marie-Virginie Klein, juste après le journal de 19h, le livre de Sophie Desdéserts, Croquis de pouvoir. On est dans différents canaux, mais on rejoint le pouvoir, elle nous expliquera. Panorama à 19h30, où est donc passé le débat sur le racisme anti-blanc ? Mathieu Bock-Côté, sociologue et chroniqueur, et Patrick Simon, directeur de recherche à l'INED, nous parle de cette disparition assez étonnante. Dans un instant, le journal de 19h.